Le débat africain. Alain Foucault.
Alors que tout le monde se réjouit de la croissance économique soutenue en Afrique ces 15 dernières années, s'imposent deux paradoxes qui méritent qu'on s'y attarde. Les conditions de vie des populations qui ne se sont pas améliorées de manière significative, mais également le fait que l'on ne voit pas apparaître de nouveaux champions locaux. Les PME continuent de se contenter de sous-traitance avec des firmes internationales et des petits marchés. Les deux incongruités ne seraient-elles pas liées? Et dans ce cas, comment venir en aide aux PME pour permettre une croissance inclusive et endogène? Celle qui, enfin, parle et concerne le plus grand nombre. Celle que les Africains ne voient pas que dans les documents des grands spécialistes. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au financement des PME, les petites et moyennes entreprises en Afrique. Avec plusieurs invités dans ce studio 51 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord, Monsieur Modeste Ngou, le PDG de Cetelsi. Une PME dans les télécoms basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cetelsi est installée dans 5 pays d'Afrique subsaharienne. Bonjour, Monsieur Modeste Ngou.
Bonjour, Alain.
Bienvenue. Second invité de ce plateau, Madame Nousbi, responsable investissement pour la Côte d'Ivoire chez Investisseurs et Partners, celui qu'on appelle IEP. C'est bien ça. Bonjour, Madame Nousbi.
Bonjour.
Et merci d'être là. Notre troisième invité est un banquier dans l'une des rares structures championnes locales dans ce secteur au sud du Sahara. Monsieur Moukaram Chanou Alao est le directeur général d'Ecobank Burkina Faso. Bonjour, Monsieur Chanou.
Bonjour, Monsieur Foucault.
Quatrième invité, et pas des moindres, connu sur nos antennes, mais également très introduit dans les milieux d'affaires sur le continent, Didier Akwete, le président du groupe Afrique Search, spécialisé dans le recrutement des cadres africains. On l'écoute beaucoup sur notre antenne. Il est également à l'initiative du Africa SME Champions Forum, dont la sixième édition se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, les 12 et 13 novembre prochains. Bonjour, Didier Akwete.
Bonjour, Alain.
Alors, lorsque l'on parle d'économie en Afrique aujourd'hui, on se dit, on est sorti de l'afro-pessimisme pour entrer dans quelque chose qu'on appelle l'afro-optimisme avec des chiffres qui font pâlir un certain nombre de personnes, des chiffres de croissance plutôt positifs. Mais, dans le même temps, les Africains se disent, mais ça se passe où en fait? Parce qu'ils ne voient pas ça dans leur assiette, parce qu'ils ne le ressentent pas. Comment expliquer ce paradoxe? J'ai envie de poser la question à Madame Nousbi.
Ben, on explique ce paradoxe parce que, en Afrique, il existe ce chaînon manquant. Ce chaînon manquant qui est constitué d'entreprises de petite taille qui malheureusement ne trouvent pas les ressources suffisantes pour se développer, alors même qu'elles ont une myriade d'impacts, des impacts d'ordre économique, des impacts d'ordre sociaux. Ce sont des entreprises qui peuvent structurer toute une chaîne de valeur et faire en sorte que la croissance ruisselle.
Donc c'est pas une vue de l'esprit lorsque les gens disent que cette croissance, c'est l'affaire des grandes firmes qui viennent d'ailleurs et qu'on n'en profite pas en intérieur.
Voilà, on n'en profite pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'il faut un certain nombre d'outils à disposition de ces PME. Une des choses importantes, c'est donc le financement, mais un financement adapté qui leur permette de développer leur plein potentiel.
Alors est-ce que le fait que l'on ne voit que certaines grandes firmes dans des domaines comme les télécoms, comme le pétrole, comme les mines essentiellement, vient surtout de ce manque de financement, Monsieur Moukaram Chanou.
Je commencerai par deux constats. Le premier, c'est de dire que prêter de l'argent au secteur privé africain constitue un risque, selon ce qu'on dit généralement. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, apporter un financement pour une petite entreprise est également un risque. Et quand on regarde un petit peu, malheureusement, une petite et moyenne entreprise africaine cumule les deux risques. D'où justement la réticence.
Ce qui fait que le banquier, il a peur, il se dit « je ne vais pas prendre ce double risque ». Mais dans le même temps, on voit les grandes firmes arriver avec des grands capitaux. Est-ce qu'il n'y a pas le risque tout simplement qu'en pensant comme vous le dites, ben l'économie continue d'appartenir aux autres, c'est-à-dire à ces grandes firmes qui arrivent avec des gros capitaux?
C'est pas forcément ce que je pense, c'est un constat. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, Monsieur Foucault, qu'il est plus aisé de prêter à une grande entreprise qu'une petite entreprise. Il est aujourd'hui encore un peu plus aisé aujourd'hui de s'adresser donc à des ce qu'on appelle communément des corporate names plutôt qu'à des PME, PMI. Mais on le verra, je pense, au fur et à mesure donc de notre débat, quelles sont les solutions, les moyens que nous pensons qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire évoluer un petit peu les choses. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez d'une manière globale, il y a un risque qui est plus accentué.
Qui est plus important avec les petites entreprises. Je pense que vous avez dû connaître ça, vous, Monsieur Ngou, lorsque vous avez démarré dans votre affaire, c'est celle-ci, surtout que vous êtes dans un domaine assez pointu, qui est celui des télécommunications.
Je pense que je ne m'inscris pas absolument dans les propos de mon banquier ou du banquier qui est avec nous sur le plateau. Parce que c'est là vient la réelle problématique que nos économies africaines vivent. C'est celle-ci qui est une entreprise, une PME ivoirienne et africaine, et qui s'est étendue, presque dans toute la sous-région subsaharienne.
Mmh. Est partie essentiellement de rien. En Afrique de l'Ouest.
Essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais elle va jusqu'au Cameroun, parce que nous avons une succursale au Cameroun. Mmh. Mais il faut bien que les banquiers arrivent à faire confiance à nos PME. Parce que ce sont les PME qui créent des richesses et qui constituent le pilier même de la génération des emplois en Afrique. Les grosses entreprises, contrairement à ce qu'il dit, quand elles viennent et s'installent dans nos pays, elles ne viennent pas forcément avec des capitaux. Elles font des levées de fonds dans nos différents pays.
Sur
et
place.
Le paradoxe sur place, c'est que les banquiers arrivent à leur faire confiance. Il faut bien que elles arrivent, ces banquiers-là ou ces établissements financiers, arrivent aussi à faire confiance autant aux PME. Parce que la problématique des PME, c'est de se faire accompagner à deux niveaux. Vous avez des produits financiers, des produits non financiers. Moi, je suis dans cet esprit-là de croire que c'est pas forcément le financement qui constitue la valeur ajoutée, n'est-ce pas, ou bien le moteur du développement d'une PME. Il faut aussi par derrière, comme Didier le fait d'ailleurs, apporter des produits financiers dont je nomme adaptés à leurs besoins, donc former le capital humain, parce que la dynamique d'une entreprise se fait voir par son capital humain, par ses ressources humaines.
C'est d'abord une question de confiance alors, Didier Akouété. C'est une relation de confiance qui n'est pas encore nouée peut-être entre les banquiers et les patrons des PME surtout.
Alors c'est une question de confiance, mais aussi une question d'outils, les instruments. Et je crois qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles n'ont pas les instruments pour accompagner les PME. Qu'est-ce que j'entends par là? Et Modeste Gou en est un très bon témoin. Il est dans un secteur, par exemple, qu'un banquier traditionnel ne connaît pas bien. Donc le banquier a déjà une aversion à aller dans un secteur qu'il ne maîtrise pas. Deuxièmement, au lieu de demander simplement des instruments de garantie traditionnels comme un dépôt à terme ou un terrain ou des instruments de ce type, la banque devrait pouvoir trouver d'autres instruments qui, en guillemets, la préserve contre le risque au maximum. Mais le banquier sera sur le plateau certainement pour en parler. Et donc il y a une sorte de déconnexion entre les besoins de la PME, et puis sa réalité, et puis les exigences de la banque et son exigence de profitabilité. Donc forcément, la banque préfère aller sur un grand compte, sur un big corporate, où son risque est limité, que sur les PME qu'elle ne connaît pas bien, pour lesquelles elle n'a pas les instruments qu'il faut.
C'est bien de ça qu'il s'agit, Madame Nousbi.
Tout à fait. Quand je parlais d'outils adaptés tout à l'heure, et j'en profite pour parler du métier d'IEP. Donc, IEP est un acteur du capital investissement, c'est-à-dire que IEP apporte du financement aux PME en prenant des participations au capital de ces entreprises. Mmh. Et donc, grâce à cet instrument, nous pouvons prendre plus de risques sur ces entreprises-là, puisque nous renforçons leurs fonds propres et au-delà, nous leur apportons un accompagnement.
C'est là une des solutions, selon vous, c'est-à-dire rentrer dans l'entreprise, dans ces PME-là?
C'est une des solutions et elle est adaptée à un certain type d'entreprise, pas toutes en fait. Les entreprises qui peuvent bénéficier du capital investissement sont en général les entreprises qui ont une forte croissance. Voilà. Donc qui nous approchent avec un projet d'investissement qui va vraiment les transformer. Et donc nous apportons ces fonds propres et surtout nous sommes avec l'entrepreneur dans ce projet-là et nous l'aidons à créer de la valeur.
Vous l'aidez à créer de la valeur, mais quelquefois on se dit ceux-là ils viennent pour manger l'entreprise. C'est-à-dire que vous voyez un projet et puis vous vous jetez dedans. Et après, ils ne maîtrisent plus rien.
Tout à fait. Ça peut être une crainte des entrepreneurs, mais tout dépend déjà de la philosophie du fonds d'investissement. Et beaucoup de fonds d'investissement viennent en tant que partenaires et beaucoup, comme IEP, viennent en tant que minoritaires. Donc déjà, l'idée, ce n'est pas de prendre le contrôle de l'entreprise, mais au contraire, d'accompagner un projet de l'entrepreneur et juste d'être à ses côtés.
Monsieur Chanou, est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure a fait bondir un peu Modeste Ngou qui dit « Non, je ne suis pas dans cette problématique-là ». Est-ce que le problème ne vient pas du fait qu'on n'a pas réadapté la banque à l'environnement même, en se disant « On ne va pas avoir les mêmes critères, les mêmes exigences que l'on a avec les grandes structures, que l'on a en Europe, par exemple, ou en Occident, avec des investisseurs locaux, puisque les fonds sont sur place ».
Non, vous n'avez pas tort, monsieur Foucault. On est tous conscients, effectivement, que les PME constituent un vecteur incontestable de croissance dans le pays. Et quand je pense à l'histoire, à la relation banque-PME, cela me fait penser à la relation qui existe entre de vieux couples qui se disputent tout le temps et chacun se jette le temps, mais l'un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est un peu ce que nous vivons avec les PME. Mais
il n'y a pas de moyen de divorce entre vous, en tout cas.
Il n'y a pas de moyen de divorce parce qu'on est fait pour vivre l'un avec l'autre.
Voilà.
Et je pense que...
Le divorce est réel.
Non, pas de notre côté, en tout cas. Et on ne peut pas divorcer, de façon, sauf si vous divorcez de façon unilatérale. Je ne pense pas. Il est temps, effectivement, de faire un constat. Et je pense que c'est un tort partagé de deux côtés. Il y a une méconnaissance des exigences de part et d'autre, de l'une ou l'autre des parties. Au niveau des entreprises, je pense que l'une des insuffisances, c'est l'insuffisance au niveau des fonds propres, qui très souvent est inadaptée par rapport au business model. Ce qui fait que très souvent, quand vous amenez un dossier de financement, la partie endettement est tellement lourde que le banquier se retrouve parfois propriétaire de l'entreprise. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect également de l'insuffisance au niveau des entreprises, je dirais, c'est l'organisation et une vision claire de stratégie. Je crois que monsieur à côté pourrait confirmer ce que je dis. De la part de l'entrepreneur, qui très souvent, quand vous regardez les PME, cela vient souvent d'une réflexion ou d'une idée personnelle de l'entrepreneur, sans étude de marché approfondie, pour voir un peu le moyen ou le long terme. Et enfin, les PME, ce que nous constatons aujourd'hui, ne sont pas dotées de moyens de contrôle et respect de certaines exigences.
Là, je vois M. Modestogou qui trépigne, il a envie de répondre tout de suite.
Je bondis encore sur ces propos. Je pense qu'il faut que de nos jours, les banquiers s'adaptent au modèle business qui se crée et qui se développe dans nos différents pays africains.
Ce que vous dites, est-ce qu'il existe un modèle africain tout court? Est-ce non, que c'est pas le même modèle que
vous
l'on
dites,
applique?
Ce que vous dites, je peux le confirmer il y a peut-être des années derrière. Aujourd'hui, il y a une élite africaine qui se lève et qui prend en charge sa responsabilité de créer des entreprises ou de pouvoir, oui, créer des entreprises, avoir des initiatives qu'elles arrivent, n'est-ce pas, à réaliser par la création d'entreprises comme la mienne. Mais les banquiers sont toujours dans cette logique-là, vous voyez, de penser que l'entrepreneur africain, je dis bien africain, parce qu'il croit plus aux entrepreneurs européens.
On revient à la question de confiance.
Non, on ne peut pas laisser dire cela.
C'est une réalité. Je suis bien désolé de le dire.
Là, vous l'avez dit tout à l'heure.
Je suis bien désolé de le dire.
Alors, il va vous répondre. Je crois qu'il a une réponse à ce point précis.
Non,
est-ce que vous
non.
leur faites autant confiance qu'à ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont des gros capitaux? Est-ce que vous croyez, par exemple, autant à M. Modeste Ngou que quelqu'un qui arriverait avec un grand nom survenu des États-Unis? Parce que c'est le sentiment que l'on a, hein, que quand ils viennent d'Europe, ils ont déjà l'onction, on se dit, ceux-là sont bons.
C'est justement, ça me permet de compléter donc ce que j'expliquais tout à l'heure pour dire que c'était un tort partagé. J'ai évoqué tout à l'heure quelques raisons qui justifieraient la frilosité des banques. Mais du côté des banquiers également, nous reconnaissons effectivement que nous avons certaines faiblesses, certaines insuffisances. Je pense que le premier déjà, c'est que nous ne suivons pas les crédits que nous mettons en place quand on met en place des crédits pour les PME. Et ce manque de suivi est généralement à l'origine de la dégradation de nos portefeuilles. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, c'est la pénurie au niveau des banques de cadres appropriés. Ça rejoint le point que vous exposiez tout à l'heure, de cadres adaptés pour les PME. On en viendra tout à l'heure aux solutions que nous proposons, en tout cas nous, au niveau du groupe EcoBank, pour avoir des segments de façon stratifiée sur notre clientèle, avec des produits adaptés, avec un suivi bien particulier.
Avec leurs réalités, qui ne sont pas les réalités des grandes firmes internationales. Absolument. Didier Akouété, avant de redonner la parole à Modeste, parce qu'il en a gros sur la patate, Modeste.
Effectivement. Non, mais en fait, c'est l'incapacité, pour l'instant, hein, du secteur banquier traditionnel à comprendre les PME locales qui crée la déconnexion. Si vous voulez, lorsque vous avez 90% d'un secteur privé qui est constitué de PME, mais qu'à peine 20% de financement va à ce secteur, il y a juste une vraie incompréhension des deux acteurs. Et donc, aujourd'hui, mais on y arrivera probablement dans les esquisses de solutions, le capital, en fait, parce qu'il faut se poser la question de l'origine du capital. Lorsque l'origine du capital en Afrique n'est pas africaine, vous comprendrez que ce capital va bien souvent à des entreprises qui ne sont pas africaines, si vous suivez bien mon regard. Et c'est ça qui est étonnant d'un groupe comme EcoBank, puisque EcoBank,
est un champion africain
qui devrait davantage donc adresser son capital vers les champions africains. Et je crois que c'est ce qu'ils essaient de faire, puisque quand même, ça a été l'époque de la création d'EcoBank et de ses pères fondateurs.
Madame Nosby.
Oui, une petite réaction parce que, rapport à ce que mon voisin disait à l'instant. Donc effectivement, les banques reprochent un certain nombre de choses aux PME, dont l'insuffisance des fonds propres. Et c'est en cela que les investisseurs en capital sont très complémentaires hein, de ce que font les banques, ce que nous apportons, ce capital qui permet ensuite d'aller lever de la dette. Et de plus, comme nous sommes très proches des entrepreneurs et que nous connaissons la situation de façon plus rapprochée, les banques sont souvent rassurées de voir que nous sommes au capital.
C'est-à-dire que le banquier préfère que vous arriviez avec l'entrepreneur directement chez lui. Comme ça, il se dit, tout a été structuré à l'avance. C'est
ah
bien
oui,
ça.
C'est un élément de confort, hein, très clairement. Et donc, nous coopérons beaucoup avec les banques sur le continent. Je voudrais aussi revenir sur ce que Didier disait à l'instant, sur le fait que le capital doit être endogène. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend bien aussi parce que les entreprises locales ou les investisseurs locaux comprennent mieux nos réalités. Donc, effectivement, en ce qui concerne la plupart des fonds d'investissement comme investisseurs et partenaires, c'est vrai que nous avons une large base d'investisseurs qui sont des grands bailleurs internationaux dédiés, en fait, au développement de l'entrepreneuriat africain. Mais ce que nous essayons de faire chez investisseurs et partenaires, c'est d'engager des investisseurs locaux. Donc, par exemple, nous avons créé un fonds d'investissement en Côte d'Ivoire, également au Sénégal, au Burkina. IEP apporte une partie du capital donc, qui vient de ces bailleurs-là, mais avec une base d'investisseurs, que ce soit des banques ou des grandes telcos, etc., qui connaissent bien le secteur.
Avant de passer aux solutions, je ne vous ai pas entendu dire s'il ne devait pas y avoir une volonté politique manifestée par les autorités, parce que pour que les banques soient peut-être confortées, il faudrait qu'on ait le sentiment que les autorités encouragent les PME, Didier Aoukété.
Non, effectivement, il faut une forte volonté politique, comme on le voit dans tous les pays du monde, où on a une kyrielle de PME qui se développe et qui sont des champions, hein, que ce soit aux États-Unis, à Singapour, en Allemagne, en France, oui. Et par rapport à cette volonté politique également offre l'environnement qu'il faut pour les différents instruments. L'erreur que nous faisons, c'est que nous avons en Afrique la banque. Or, la banque vient en dernier recours. Avant la banque, vous avez bien sûr le fonds d'investissement qui vient encore plus loin. Mais celui qui prend le risque, le capital risqueur, où est-il? Le business angel, où est-il? Les fonds publics d'appui au secteur privé, qui doit justement faire ce risque? Où sont ces fonds? Donc, les instruments d'accompagnement de PME font défaut en dehors simplement de la banque et depuis quelques années du fonds d'investissement.
Justement,
et ça, la volonté publique doit être évidente pour accompagner et mettre en place ces
instruments. Justement, donc pour faire ce type de débat, est-ce qu'il ne faudrait pas que les autorités publiques prennent leurs responsabilités d'abord, parce que je pense qu'ils sont au départ, c'est-à-dire pour conforter les banques, pour créer l'environnement, il faut une réelle volonté politique, il faut que les pouvoirs publics aient mis un cadre juridique et institutionnel qui permette à ces PME-là d'exister et de susciter la confiance.
De toute évidence, c'est maintenant qu'ils se réveillent, parce qu'avec les 15 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, les pays commencent à comprendre que c'est la véritable bombe à retardement et que si on ne règle pas la question de l'emploi, nos pays vont imploser. Et donc, on comprend enfin que ce sont les PME, comme celle de Modesgou, qui créent les emplois, puisque ce sont ces PME qui génèrent 60-70%
des emplois. 60-70%
des emplois. Absolument.
Ça, combien vous avez d'employés, monsieur Modestin?
200.
Aujourd'hui,
200 employés.
200 employés sur,
environ.
Dans les 5 pays.
Dans les 5 pays.
Oui.
Et déjà, pour parler de volonté politique, je pense que, pour le cas de la Côte d'Ivoire présente, je pense qu'il y a une réelle volonté politique dans la mesure où l'État, le gouvernement, le président de la République a mis en place un secrétariat d'État chargé de la gestion des PME. Maintenant, après, quand on parle de volonté politique...
Là, je vois quelques-uns qui font l'amour.
Quand on parle de volonté politique, effectivement, pour ma part, il faut aller plus loin. Parce que les structures étatiques existent bel et bien. Mais le réel problème, c'est que ces structures ne jouent pas réellement leur rôle au profit des PME, qui encore se cherchent elles-mêmes. Parce que prenons mon cas.
On va parler dans la seconde partie du débat africain, puisque le temps tourne vite et que nous arrivons au terme de cette première partie. On évoquera surtout dans cette seconde partie les pistes, les solutions. On va essayer d'avancer plutôt que de voir seulement ce qu'il y avait. Ici, il était question d'état des lieux. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute.
Le débat africain, Alain Foucault.
Elles sont près de 40 millions disséminées sur le continent. Elles sont également les premiers patrons, largement devant les grandes firmes internationales. C'est elles qui devraient assurer les emplois de 450 millions d'Africains qui arriveront sur le marché du travail dans les 20 prochaines années. Autant dire qu'elles sont au cœur de l'économie africaine. Mais dans le même temps, moins de la moitié d'entre elles ont accès au crédit. Oui, moins de la moitié, vous l'avez bien compris. Autant dire qu'elles courent les 100 mètres avec les mains liées et un boulet au pied. Comment donner l'accès au financement aux PME africaines pour les rendre plus efficientes et compétitives? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à cette épineuse et cruciale question du financement des PME. Avec plusieurs invités dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord Modeste Ngou, le PDG de Cetelsi, une PME dans les télécoms basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cetelsi est installée dans 5 pays d'Afrique subsaharienne. Seconde invitée de ce plateau, Madame Nousbi, responsable investissement pour la Côte d'Ivoire chez Investisseurs et Partenaires, IEP. Notre troisième invité est un banquier dans l'une des rares structures championnes locales dans ce secteur au sud du Sahara. Monsieur Moukaram Chanou Alaou est le directeur général d'EcoBank Burkina Faso. Quatrième invité, et pas des moindres, connu sur nos antennes, mais également très introduit dans les milieux d'affaires sur le continent, Didier Akwete, le président du groupe Afrique Search, spécialisé dans le recrutement des cadres africains. Il est également à l'initiative de Africa SME Champions Forum, dont la 6e édition se tiendra à Johannesburg les 12 et 13 novembre prochains. Voilà pour nos invités. Alors, dans la première partie de ce magazine, on a vu un peu... On a fait un état des lieux. Cet état des lieux montre bien qu'il y a un vrai déficit de financement des PME. Là, je vais me tourner vers celui que l'on considère comme le champion africain dans le domaine de la banque, EcoBank, puisque Mouka le représente ici. Que faire pour que ces entreprises, qui sont nombreuses et qui génèrent autant d'emplois, qui sont les vraies sources de croissance endogène, puissent bénéficier enfin de vos financements et qu'on crée des champions? On a vu des champions créés dans le pays d'origine d'EcoBank, qui aujourd'hui brille sur le continent, on ne va pas tous les citer ici, les d'un côté, les Elumoulou. Comment faire pour qu'eux, ils puissent en bénéficier?
Merci encore Alain. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a fait le constat de ce qui ne fonctionne pas très bien, ou d'où vient l'incompréhension entre banques et PME. Il est effectivement aussi, une fois qu'on a fait ce constat, de dire ce que nous faisons. Au niveau du groupe EcoBank, en tout cas, nous avons adopté plusieurs approches qui sont en application aujourd'hui au niveau de tout le groupe, au niveau de toutes les filiales. Alors, le premier dont je parlerai tout à l'heure, je crois que madame a amorcé un petit peu madame la solution aussi. Tout à l'heure, et c'est effectivement le partage de risques. Par exemple, en investissement capital, où il y a des investisseurs aujourd'hui qui peuvent venir en renfort au niveau du capital de ces structures. Malheureusement, ce qu'on constate à ce niveau-là, c'est la réticence des entrepreneurs à ouvrir le capital de leur structure pour pouvoir laisser entrer d'autres. Ça permet effectivement d'avoir, comment dirais-je, des fonds propres suffisamment forts.
Mais avant que vous ne continuiez dessus, est-ce que ce risque n'est pas réel? On a vu des entreprises, de petites PME mangées par les gros qui arrivent avec des gros capitaux d'Occident.
C'est un risque effectivement qui est possible, mais je pense que tout est basé sur le projet. Il faudrait effectivement mettre à plat dès le départ avec l'investisseur qui vient des garde-fous pour justement pour limiter des absorptions que j'appellerais sauvages ou abusives. Mm-hmm. Autre solution que nous avons mis en place au niveau des EcoBank, c'est de créer des départements spécialisés dans le suivi et le financement des petites et moyennes entreprises.
Vous y pensez ou bien ça existe
C'est en application. Et même mieux, nous allons un peu plus, nous avons créé ce que nous appelons aujourd'hui des Emerald Club. Nous regroupons un certain nombre de PME. Aujourd'hui, de la Guinée où je viens, puisque ça fait 4 mois que j'ai pris fonction à EcoBank Burkina, nous avons mis en place donc cet Emerald Club qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une centaine d'entreprises, ce n'est qu'un départ, que nous rencontrons régulièrement, nous échangeons, nous partageons leurs soucis et également nous leur apportons du renforcement de capacités avec des formations que nous disposons à ces PME.
Ce qui leur permet également. Question de vous adapter à leur environnement.
Absolument. Et que eux-mêmes comprennent nos exigences. Mmh. Absolument. Mmh. Et troisième piste, effectivement, c'est aussi de diversifier un petit peu les sources de financement. Mmh. On a parlé tout à l'heure donc de l'apport que des institutions comme des fonds d'investissement peuvent apporter. Nous venons également avec des garanties qui sont offertes par exemple avec SFI avec lesquelles nous avons des partenariats, avec le fonds Gari, d'autres institutions sont également prêtes pour accompagner, qui nous permettent d'avoir des garanties pour couvrir l'ensemble de nos portefeuilles SME.
Madame Nousbi, ce qu'il dit vous concerne également, c'est-à-dire Il se dit, vous devez peut-être être ceux qui entament la négociation avec les entreprises. Est-ce que c'est déjà le cas avec les créateurs de PME?
Oui, c'est parfois le cas. Nous sommes dans des situations
où... C'est vous qui les sollicitez ou c'est eux qui viennent vers vous?
Plusieurs entreprises viennent nous solliciter quand elles sont en levée de fonds, mais nous allons aussi vers des entreprises qui ont déjà des succès et qui veulent amorcer une nouvelle phase de développement. Nous observons les deux. Et dans certains cas,
mais à la création, est-ce qu'on vient vous voir?
Alors, non, pas forcément à la création, parce qu'il faut des outils dans le capital investissement qui sont adaptés à des sociétés en amorçage. Aujourd'hui, les fonds qui sont disponibles sont plutôt pour des entreprises matures qui veulent croître. Mais donc ça fait partie justement des solutions. C'est de permettre l'éclosion de solutions de financement d'amorçage. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler
quand
sur
ce type de financement. Quand vous dites amorçage, c'est-à-dire pour ceux qui démarrent.
Voilà, pour des entreprises en démarrage, sur des montants entre 50 000, 100 000 euros, et où il y a tout un accompagnement autour, je pense.
C'est-à-dire 65 millions de francs CFA, en tout cas du CFA d'aujourd'hui.
Autour de ça, à partir de 30 millions, parfois même moins. Donc, pour pouvoir lancer ces entreprises, il faut qu'il y ait également des fonds disponibles pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau et qui veulent
plus de croissance.
Et il faut que ces sources de financement-là puissent aller aux entreprises qui en ont besoin.
Mais d'où viennent vos fonds?
Nos fonds viennent en grande partie de bailleurs internationaux, donc voilà, Proparco, la Banque mondiale, l'IFC, mais elles viennent également d'institutionnels, de corporate, qui ont à cœur d'aider le développement des PME.
D'accompagner, le mot aider,
d'accompagner dans le financement. Non, bien sûr, mais voilà, donc elles ont cette...
Alors Modeste Gou, quand vous entendez cela, vous vous dites qu'il y a une ouverture, non?
Oui,
que c'est pas fermé en face.
Je connais bien Nusbi parce qu'on a eu plusieurs fois des échanges dans ce sens. Mais je pense, et je reviens encore sur mes propos, je pense que les établissements financiers et les fonds d'investissement gagneraient à adapter les sources de financement d'accompagnement aux réels besoins des PME.
Mais c'est ce qu'ils ont l'air de dire, tous les deux.
Oui, ils le disent. Il y a une chose, c'est de le dire, et puis l'autre chose, c'est de pouvoir mettre en pratique.
Oui.
Voilà, c'est l'implémentation qui importe pour nous. Parce que moi, je suis un témoin, un témoin visible. Je vous ai parlé tantôt de deux approches. La première, c'est d'abord les produits non financiers qui éventuellement regroupent le coaching, la formation, l'accompagnement, la restructuration, la structuration même des PME. Effectivement, nous avons besoin d'être structurés. Quand vous prenez mon cas, je suis une PME en forte croissance. Les 5 dernières années, nous avons été créés en 2013. Aujourd'hui, nous faisons quand même du chiffre. Nous avons aussi du personnel d'effectif assez conséquent.
Mais puis vous avez été primé à deux fois.
Voilà. Mais et grâce aussi au soutien des plateformes organisées par Didier Côté, telles que SME Champion Forum, lesquelles plateformes nous bonifient, nous renforcent nos capacités.
Vous rendez plus visible.
Voilà, nous rendent plus vivants et plus objectifs. Donc, parlons des établissements financiers, parce que je les regarde et je les parle. Vous pensez, quand on parle de récapitalisation, Nusbi a dit tout à l'heure qu'on attend que la PME ait de la valeur, ou bien soit mieux structurée, organisée, stable, en un mot, avant, si, je l'ai bien entendu, avant d'apporter notre accompagnement. Non, mais il ne faut pas attendre que la PME soit à un certain niveau avant de l'accompagner. Parce que je le disais tantôt, les grosses entreprises qui arrivent dans nos pays viennent juste avec le label. Et elles arrivent à mobiliser les fonds localement parlant. Je sais de quoi
sur
je parle.
Si vous permettez, je pense qu'il est... Non, c'est important qu'on réponde à Modeste. Parce que... Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Modeste, nous travaillons avec une matière qui est très sensible. C'est l'argent. Et cet argent est constitué des dépôts que des gens comme vous nous confient.
Absolument.
Nous sommes garants de cela. Et de mémoire, je ne connais aucune banque qui ne veuille pas gagner de l'argent. Nous ne sommes pas des philanthropes. Et comment on fait pour gagner de l'argent? Entre autres, c'est de l'argent qu'on récolte, qu'on prête aux clients. Donc, mon objectif, c'est de prêter le plus possible. En même temps, je dois faire attention à l'équilibre de l'argent qu'on m'a confié. Je dois pouvoir le rendre à tout moment. De tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, Modeste, j'ai bien noté effectivement qu'il y avait des insuffisances au niveau des PME. J'ai également listé des insuffisances au niveau des banques.
Absolument.
Moi, je souhaiterais, quand vous, dans vos propos, d'abord, moi, je vous félicite pour votre parcours, pour votre réussite, mais prenez en compte un petit peu les recommandations faites par les banques également, qui consistent un peu à regarder les trois points d'insuffisance que j'ai listés. Il n'y en a pas beaucoup.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
On ne cherche qu'à faire ça, qu'à avoir vraiment une relation durable et fiable avec vous.
Mais ce que je veux dire, là, Monsieur Mouka, n'attendez pas que la PME soit à un certain niveau d'indépendance. Vous savez, a priori, quand vous accompagnez les PME à l'initial, vous êtes orienté sur le financement de l'exploitation. Une entreprise ne peut pas grandir ou croître si l'accompagnement est orienté exclusivement que sur le financement de l'exploitation. Parce qu'à côté de l'exploitation, il y a l'investissement. Nous avons besoin d'investir pour croître. Donc il faut que le banquier que vous êtes essaie éventuellement de mettre en évidence, d'intégrer dans l'accompagnement tous ces éléments. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que vous ne nous accompagnez pas, parce que moi j'ai des banquiers qui m'accompagnent.
Ah, mais je suis heureux
d'entendre ça. Non, j'ai pas envie de citer des noms, mais j'ai des banquiers qui m'accompagnent. Dernièrement, il y a une des banques qui a créé éventuellement une structure spécialisée et qui accompagne les PME. Je suis témoin, je suis un relais de cette... J'ai même fait une émission en conséquence.
Donc vous n'êtes pas contre tous les banquiers.
Non, je ne suis pas contre.
Alors,
je ne suis
pas contre. On va essayer d'avancer, Didier.
La discussion tourne autour du fait que le banquier ne veut venir et le font que lorsque la PME se porte bien. Or, en fait, dans le cycle de croissance d'une PME, ce que nous appelons communément la fameuse vallée de la mort, où la PME a le plus besoin de la banque n'a pas l'instrument pour faire cet accompagnement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une des réponses. La digitalisation, par exemple, c'est une réponse formidable. Quand on regarde les fintech, par exemple, en Afrique du Sud ou au Kenya, vous allez regarder, en fait, le modèle de développement du financement digital, sans connaître la PME ou la TPE, on arrive à lui prêter de l'argent. Exemple, lorsque vous voyez qu'une fintech comme, on va citer deux, FinFin et Nuyoko en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud arrive à prêter 500 millions de dollars à des petites entreprises qu'elles n'ont jamais rencontrées juste parce que une application permet de regarder le cycle d'exploitation de la PME, ça veut dire qu'on arrive sur des instruments extrêmement souples avec beaucoup d'intelligence artificielle qui permet de répondre aux besoins de la PME en temps réel. Et c'est ça que les banques traditionnelles n'arrivent pas à faire et n'ont pas comme instrument pour arriver à s'adapter au cycle d'activité de la PME. Lorsque la PME sur un cycle d'activité court, la banque regarde un cycle peut-être pas aussi court avec le risque très élevé sur ce cycle. Et donc, Didier, il faut qu'on arrive à innover.
Je vois les dieux de la finance.
Je ne veux pas vous contredire, Didier, mais je ne suis pas tout à fait en ligne avec ce que vous venez de dire en disant que les banques ne veulent accompagner que lorsqu'il fait beau chez l'entrepreneur ou que lorsque l'entrepreneur a atteint sa vitesse de croissance.
C'est ce que les PME disent. Hein. Non, et moi aussi, je suis PME au passage.
Au niveau du groupe EcoBank, encore une fois, nous avons des lignes adaptées pour accompagner les entreprises en fonction donc du secteur d'activité, en fonction également...
Même quand elles sont en difficulté ?
Naturellement. Il ne s'agit pas pour le banquier d'abandonner...
Quand la banque a une forte exposition, la banque accompagne pour ne pas tout perdre. Sinon, non, la banque ne vient pas. Soyons...
Mais pour revenir sur notre approche... C'est pas totalement vrai de dire qu'on accompagne les entreprises seulement quand elles vont bien. C'est important d'accompagner des entreprises qui ont des bases solides et c'est pour ça qu'on arrive avec une analyse très poussée. Pourquoi ? Parce que quand un fonds rentre dans le capital, c'est pour avoir un succès aux côtés de l'entrepreneur et pour l'aider à grandir. Donc on ne peut pas investir dans n'importe quelle PME, des PME qui ont de grosses difficultés. En revanche, ce que je disais, c'est plutôt lié au niveau de maturité. Et en fonction du niveau de maturité, il faut avoir l'instrument adapté. Quand un fonds dispose des lignes nécessaires ou de l'instrument adapté pour accompagner, par exemple, des entreprises jeunes, elle va d'abord faire une analyse sur les compétences de l'entrepreneur, par exemple, ou le marché. Est-ce qu'il peut grandir de façon aisée ? Voilà. Donc, ce sont des éléments très importants. Il faut que l'investissement soit une réussite parce que ça appelle plus d'investissement, ça appelle plus de capital pour les entreprises et au final, tout le monde est gagnant. Donc, c'est une grande responsabilité des fonds et des banques.
Alors, je vais me tourner encore vers les banques en me faisant le porte-parole d'un certain nombre de personnes, puisque quand on a préparé l'émission, on a eu quelques questions. Ils disent: mais comment ça se fait qu'on ait l'impression que les banques travaillent de leur côté et ne se rapprochent pas des pouvoirs publics pour créer un cadre ? Parce que tout seul, personne ne peut rien. C'est peut-être l'occasion pour les structures bancaires de se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble si on veut développer ? On parle beaucoup de panafricanisme, mais dans ce domaine-là, chacun joue un peu de son côté en se disant le cadre n'est pas bon, c'est pas notre faute. Est-ce qu'il y a une vraie communication entre vous pour avoir une stratégie pour développer l'Afrique, que ce ne soit pas juste des mots ?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a un cadre de concertation. Et nous, l'une des premières choses que l'on demande un petit peu, c'est quand on parle d'une manière globale d'environnement des affaires. Il est aujourd'hui malheureux de constater que lorsque il nous arrive de financer donc des entreprises, je ne vais pas forcément identifier des PME, la réalisation des garanties parfois peut prendre 8 à 10 ans. M. Foucault. 8 à 10 ans. Vous comprenez un petit peu que parfois, certaines banques puissent avoir une aversion envers les PME. Et donc, favoriser ce cadre pour rendre un environnement juridique plus juste, en tout cas, je pense que c'est quelque chose...
C'est une obligation, c'est une urgence.
Absolument.
Non, mais c'est impératif. Il y a à côté. Oui, non, non, c'est impératif. C'est-à-dire que quand on parle du cadre réglementaire, et le banquier est très bien placé d'ailleurs pour en parler, les coefficients de risque que le banquier doit gérer, c'est une contrainte pour le banquier. Donc, qu'est-ce que la réglementation bancaire peut permettre d'assouplir ? Les instruments que les États peuvent mettre à la disposition des PME de manière objective, parce qu'on a des agences de PME, des ministères de PME, mais qui n'arrivent pas aujourd'hui. Parce que ceux qui dirigent ces organisations ne connaissent pas la PME, n'ont jamais dirigé une PME. Donc, c'est une approche extrêmement théorique, et donc il y a un dialogue qui est complètement...
qui est difficile à passer.
Oui, et ceci, excusez-moi, je termine juste d'un mot pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Didier. C'est effectivement cette adéquation entre ce que nous exige la réglementation et la souplesse que nous demandons, en tout cas la compréhension que nous demandons pour pouvoir faire face à cette exigence réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir un petit peu aujourd'hui les exigences un peu balle 2, balle 3, qui rendent effectivement le métier beaucoup plus complexe aujourd'hui, plus exigeant. Et donc, également, nous avons besoin d'avoir des emplois vraiment assez solides.
Modeste Ngo.
Voilà. Donc, je pense que je partage éventuellement vos propos sur cet aspect des choses. Il est plus qu'urgent pour nos États de mettre en place des réglementations, je vais dire des cadres, qui définissent l'accompagnement des PME, la collaboration, établissements financiers, banques et PME. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une agence que je nomme agence des PME qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire sur instruction ou bien sur demande du ministère des PME. Maintenant, après, la question, la problématique...
Je vois le sourire de quelqu'un qui...
La problématique vient du fait qu'il faut bien que l'État, qui a certainement une réelle volonté politique, puisse l'implémenter. Et dans le processus de l'implémentation, il est important pour l'État et pour nos PME que l'État mette en place des fonds de garantie.
Mais il faut aussi peut-être soutenir des plateformes.
Pour pouvoir soutenir l'économie, soutenir l'accompagnement et accompagner les PME à se développer. Parce que dans notre cas, les PME ont constamment des BFR négatifs.
BFR, il faut expliquer aux problèmes.
Voilà. Besoin de fonds de roulement
négatifs. Voilà. Vraiment, Modeste vous l'a dit, ce sont les instruments d'accompagnement des PME. Que ce soit en matière de gestion des ressources humaines, en matière d'organisation, en matière de système d'information. Quand vous rentrez dans une PME, c'est autant d'enjeux auxquels les PME sont confrontées, même si elles ont des marchés qui sont en train de croître. Et ça, s'il y a un message à faire passer aux États, on doit la réglementation, c'est les outils, les organisations d'accompagnement des PME qui leur permettent de traverser tous ces problèmes organisationnels. Parce que le financement vient naturellement après. Hein. Et il faut passer absolument par ces cases-là. Et malheureusement, pour l'instant, les agences d'appui aux PME n'arrivent pas à jouer ce rôle.
Alors, pour l'instant, on discute beaucoup, mais il faut des cadres pour en parler. Et je crois que c'est l'objet de votre forum en Afrique du Sud.
C'est les 12 et 13 novembre, c'est la 6e édition. Et d'ailleurs, Monsieur Modeste Gou avait obtenu un financement après un de ses forums au Kenya. Et il a gagné le prix de la meilleure PME de l'année, l'année qui a suivi. C'est une plateforme qui permet effectivement aux PME de se rencontrer, de voir des financiers, de bénéficier de formations et de réseauter avec d'autres PME.
On espère que le prochain, c'est le 9 novembre, on va faire qu'il y ait plusieurs Modeste Ngo qui puissent en bénéficier et que Monsieur Mukachano, quand il sera là-bas, trouve des perles rares à qui il va donner de l'argent. Pourquoi on est enfin des champions? Parce qu'en zone francophone, c'est ce qui manque le plus pour l'instant.
Je peux vous assurer, M. Foucault, que c'est l'objectif des Cobanques de faire des champions. Et nous en faisons dans nos différentes filiales.
Comme le dit Modeste, que la banque ouvre le portefeuille.
On va terminer sur cette note-là, puisque nous arrivons au terme de ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci madame d'être venue nous voir. Merci monsieur. Je voudrais terminer cette émission ce dimanche en ayant une pensée affectueuse pour les familles des victimes de l'éboulement du terrain qui a fait plusieurs dizaines de victimes dans la ville de Bafoussam, au Cameroun. Occasion également de faire appel à la solidarité des uns et des autres pour venir en aide à ces familles dans la détresse qui se retrouvent sans toit après cette tragédie. Je leur adresse mon soutien. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Religion du monde.